Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde, bonjour Corinne.
Aujourd'hui, Asialogie met les robots en lumière, et plus précisément les peluches interactives qui nous fascinent. Bah, je dirais depuis toujours, on a toujours rêvé d'avoir un doudou interactif.
Je pense que chaque enfant a rêvé de ça, effectivement.
Oui, oui. Et pour terminer, Didier, toi tu vas nous raconter la belle légende chinoise à l'origine du film d'animation Neja.
Tout à fait.
Qu'on connaît pas bien.
Non.
Mais je pense que...
De plus en plus,
on va le connaître de plus en plus.
C'est ça. Ok. Bon, alors... On va commencer quand même d'abord par les peluches.
Oui, donc, oui, oui.
Écoute, à quelle époque sont nées en fait les premières peluches interactives, et qu'est-ce qui nous plaît tant en fait chez elles en fait?
Bah, elles ont plus de 40 ans, Didier, ces peluches interactives. Elles sont pas très, enfin, elles sont pas vieilles,
non,
mais
s'il te plaît.
Ça commence quand même un petit peu à dater.
Oui.
Et elles ont bien sûr tout pour plaire, du moins à première vue. Alors, ces peluches sont depuis des générations maintenant, considérées comme des compagnons presque vivants, des vrais doudous, mais avec des capacités électroniques.
J'imagine bien.
Voilà, elles génèrent des sons, des mouvements et elles réagissent aux stimuli tactiles et parfois même par reconnaissance vocale.
Ah oui.
Alors, les premiers modèles sont nés dans les années 80-90.
Oui.
Et le premier, c'est Teddy Ruxpin, né en 1985.
Oui.
Il est considéré comme la première peluche interactive, Teddy Ruxpin. On l'écoute.
My name is Teddy Ruxpin. Can you and I be friends?
Yes.
I really enjoy talking to people. I would like you.
Teddy Ruxpin, the storytelling bear, comes with illustrated book and cassette from Worlds of Wonder.
Et bon, voilà.
Oui, merci Didier pour Teddy Ruxpin. Bon, on a compris que Teddy, c'est l'ours américain, Teddy Roosevelt. Donc, il est américain, Teddy Ruxpin, et c'est un ourson plus précisément, qui parlait et qui chantait avec des cassettes audio insérées dans son dos.
D'accord.
Alors, sa bouche et ses yeux bougeaient en rythme avec les paroles. Et il a eu un succès fou à sa sortie. Il a été le jouet le plus vendu. En 1985,
tout de même.
Il a même dépassé Barbie.
Ah oui.
Oui, puis il a été évincé par d'autres jouets plus perfectionnés.
D'accord.
Et il est revenu en 2017 avec...
En 2017
Oui, oui. Okay. C'est pas si vieux ça du coup.
Oui, bah oui.
Avec des fonctionnalités numériques. Mais il est américain, toujours.
C'est, ok.
Voilà, on l'a pas vu en France.
Ouais.
Alors on le trouve pour environ 100 euros. En dollars, je sais pas, j'ai calculé en euros en fait.
Okay.
Chez Walmart.
Ah oui.
Mais en France, on le connaît un peu, mais c'est par les livres et les DVD de son dessin animé. C'est
d'accord.
Ça qui est en vente. Le Teddy, lui, le jouet, n'est
pas.
Non,
moi,
à ma connaissance.
Je suis passé à côté, ça me dit strictement rien. Enfin, ça me disait rien jusqu'à ce soir. Bon, alors, du coup, qui l'a dépassé ? En fait, qu'est-ce qui lui a succédé, en fait ?
Oui, alors, celui qui lui a succédé, on le connaît bien.
Ah.
C'est le très, 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 très mignon Furby. J'insiste sur le très mignon, je l'adore. Hein, c'était en 1998.
Ok.
Alors, Furby, c'est une créature mi-chouette, mi-gremlin, qui parle d'abord une langue inventée, le Furbish.
D'accord, le Furbish.
Oui, oui, une langue qui est répertoriée. Il y a
j'ai
petit dictionnaire de Furbish. Ça, c'est dans la boîte.
Okay.
Dans la boîte, il y a un petit lexique.
Mm-hmm.
Puis, en entraînant Furby, on arrive à lui faire apprendre des mots. Alors, en anglais ou en français ou en espagnol, selon les versions.
Ah, en français aussi, d'accord.
Oui, 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 en français bien évidemment.
D'accord.
Et en 98, Furby était pour l'époque très perfectionné avec ses capteurs. Il réagissait à l'environnement des sons et des lumières et au comportement de ses propriétaires.
D'accord.
Furby a été une folie commerciale mondiale avec des files d'attente pour en acheter à Noël.
Ah oui.
En un an, plus de 14 millions de Furby ont été vendus. Et bah, y a eu plusieurs sortes de Furby, hein, dont des versions connectées.
Bien sûr.
Et il a fait un retour remarqué en 2023 avec une version moins sophistiquée.
Oui.
Le retour
aux sources.
Aux sources.
Ouais.
Pour 50 euros environ.
Ah, ok.
Voilà. À savoir que le Furby joyau, ça s'appelle en anglais B.G. Walt.
Ouais.
Il est sorti en 1999.
D'accord.
Coûte plus de 100 000 dollars.
Il y a 100 000 dollars.
Ouais, il y a eu seulement 5 exemplaires au monde.
Ah oui, voilà. Ok.
Il y en a d'autres qui coûtent un peu moins cher et qui sont aussi très recherchés.
Ah oui.
Aussi. Qui ont été vraiment en nombre, limité, sorties en nombre très
sûr.
Très limité.
C'est ce qui fait leur prix, leur rareté, d'accord.
Voilà. Et bah, il y a eu ensuite d'autres peluches, un petit peu moins connues, Amazing Ally, une poupée interactive qui connaît ton nom, ton anniversaire, et qui peut te poser des questions. Ah. Alors c'est plutôt une sorte d'assistant personnel, Amazing Ally. Et oui, c'est plus qu'une simple peluche. Et ben, on la trouve en Australie. Elle est elle
n'a
pas débarqué chez nous, Amazing Ally. Il y a aussi Pucci et Miochi, le robot chat, qui sont des petits animaux robotiques qui se comportent presque comme des vrais. Alors, grand succès aussi, toujours en vente pour 40 euros, et ceux-là, on les trouve en France.
D'accord.
C'est pas très cher, hein.
Okay.
Alors, moi, je trouve, quand même.
Ouais, ouais, oui.
C'est des jouets quand même sophistiqués.
Oui, j'imagine.
Et qui sont... Qui viennent,
mes
qui
enfants sont trop grands pour que je leur offre ça. Donc c'est pour ça que je suis un peu passé à côté, ça reviendra.
Ouais.
Et alors, du coup, quand est-ce qu'on a basculé, qu'elles sont apparues en version connectée, ces peluches?
Alors, bah, depuis 2010, Didier.
Ouais.
Avec le début de l'intelligence artificielle.
Eh oui,
alors, je ne vais parler que des peluches connectées disponibles en France.
D'accord.
Alors, précision, les peluches connectées reconnaissent des commandes vocales.
Oui. Hein,
bah, comme on dit, par exemple, « Hey Furby
»,
ou « Hey... »
Oui, enfin, comme quand on parle à notre téléphone, si tu veux.
Oui, quand on parle à notre assistant connecté.
Voilà.
Voilà. Donc, on reconnaît les commandes vocales. Ils peuvent raconter des histoires, chanter, répondre à des questions, comme nos assistants vocaux.
D'accord.
Et s'adapter, par contre, là, au comportement de l'enfant. Tout ça via des applications. Alors, de chez l'entreprise chinoise Folotoy, il y a des jouets conversationnels interactifs, tels le panda Momo, ou l'ours Kuma.
Oui.
Et à noter que les jouets Folotoy, et ça c'est très important, prennent désormais en charge le modèle linguistique français Mistral.
Ah oui,
l'AI Mistral.
L'AI, oui, ça j'en
française.
Ai entendu parler, ok, d'accord.
Voilà, c'est notre IA Mistral.
Okay.
Donc les Chinois, ils font quand même des efforts. Hein,
ouais, bah, ils ont surtout de l'argent à se faire, donc ils vont là où il y a des marchés.
C'est vrai, toujours
marchés,
pragmatique,
quoi.
Didier.
Ouais, c'est ça, exactement. Ah.
Voilà. Okay. Et donc, on peut commander sur le site Folotoy bah, le panda Momo ou l'ours Kuma, au choix, pardon.
Et alors, et ça coûte
100 euros.
Quand même, d'accord.
Oui, et il y a un abonnement mensuel.
En plus.
Oui, alors c'est pas très cher, ça doit être 5 euros par mois.
Oui, mais bon.
Mais
ça
en fait, il y a des mises à jour,
oui,
etc., des nouveaux trucs.
Oh, ils nous tiennent beaucoup avec les abonnements maintenant.
Voilà, ils nous tiennent beaucoup.
Ok.
Donc ça, c'est Folotoy, Kuma et Momo.
Ok.
On peut aussi trouver Owooz.
Oui.
Un ours en peluche aussi.
D'accord.
Kubbu, le lapin, qui a une caméra intégrée pour la communication vidéo.
Ah, d'accord.
Et il y a aussi Smalody, un autre chat robot très réaliste.
D'accord.
Et une des dernières nées, c'est la peluche Snorble, qui est née en 2020. C'est un vrai compagnon bien-être, hein, entre assistant vocal et doudou, avec des fonctions éducatives, des fonctions d'aide au sommeil, de yoga pour enfants, de respiration guidée. Et celui-là, il n'y a pas besoin d'abonnement.
C'est
mais
bien.
Il coûte 200 euros.
D'accord. Enfin, là, j'ai l'impression qu'on va...
On est dans la sophistication.
Oui, c'est ça. Ah. C'est encore un autre domaine.
Oui.
Et maintenant, quel progrès en attendre, en fait, on en est là. Et elles sont déjà perfectionnées, ces peluches, quand même. Donc, on va où, en
fait ? Bien, on entre dans une ère où les peluches interactives peuvent avoir des voix et des bruits naturels générés par l'IA. Donc
bien
ça,
sûr.
Ça change.
Tout ça, ça sophistique, forcément.
Et elles sont donc maintenant, elles vont se connecter au cloud.
Oui.
Et pourront même réagir à l'humeur de l'enfant. avec les capteurs de, et leur capacité de reconnaissance émotionnelle.
Oui, tout ça, ça
c'est très
de
important.
Plus en plus, quoi.
Oui. Okay. Alors imaginons une peluche qui sait quand on est triste, qui nous propose une activité qui nous correspond, calme ou rythmé, qui peut lire notre routine du soir, la petite histoire pour les enfants aussi, le tout synchronisé à ton agenda.
Voilà, d'accord.
À notre agenda.
Okay, okay.
Alors, ces peluches sont devenues tellement intelligentes qu'elles sont devenues, en 20 ans, des peluches thérapeutiques.
Ah, ça
très utile.
Ça peut être intéressant, oui.
Oui, pour aider des enfants ou des adultes atteints de certains troubles psychologiques, cognitifs ou comportementaux.
Ouais.
Voilà,
ça me parle
plus. On va faire une petite pause avant de parler des peluches thérapeutiques.
Bien sûr.
Tu nous as trouvé une petite chanson sympa, Didier.
Ah, je crois.
C'est
toute rigolote, toute pimpante. Je vous laisse découvrir et puis on en discute.
On en
juste
discute
après. Mais vu ce qu'on vient de dire, je pense qu'il n'y a pas trop de mystère.
Ah bon?
Et voilà, on était donc, comme on en a parlé tout à l'heure, avec Furby, la petite musique qui a dû accompagner cette tendance de peluche, quoi.
Oui, les années 90-2000.
Oh, ça sent le 2000, pop.
2000, oui.
Ah, ouais, voilà.
Oui.
Alors, toujours sur Radio Alpa, quand même, malgré tout, mais on va repartir sur, sur les peluches dites plutôt interactives, thérapeutiques, comme tu en as parlé. Elles ont quoi comme différence par rapport aux jouets interactifs dont on vient de parler? Qu'est-ce qui fait qu'elles deviennent thérapeutiques, en fait?
Alors, ce sont des peluches qui sont très sophistiquées.
Je veux bien croire, oui.
Elles sont équipées de nombreux capteurs, de moteurs et de haut-parleurs.
D'accord.
Et sont aussi, elles, parfois connectées. Alors, elles sont conçues pour apaiser, stimuler ou accompagner sur le plan émotionnel ou cognitif. Elles ont des effets, donc, thérapeutiques. Là, c'est clair, le but est celui-là. Apaiser, stimuler ou accompagner. Alors, elles ont beaucoup d'indications et elles ont fait leurs preuves, chers auditrices et auditeurs. Vraiment, ce ne sont pas des gadgets.
Non.
Elles ont fait surtout leurs preuves dans ce qu'on appelle les TSA, les troubles du spectre autistique.
Je me doutais bien qu'on allait aller vers ce terme-là.
Voilà. Auprès des enfants aussi, un petit peu agités. Les enfants hyperactifs, comme on dit.
Par exemple.
Et les personnes âgées souffrant d'anxiété.
Ouais, les personnes âgées, j'en avais aussi entendu parler.
Voilà, elles sont utiles dans les cas de troubles de l'attachement, d'Alzheimer, de démence, de troubles du sommeil. Ces peluches merveilleuses aident beaucoup les personnes en manque de communication verbale.
D'accord, ok.
Voilà.
Ok, alors, et du coup, là aussi, il y a des célébrités dans les peluches thérapeutiques. J'imagine, comme tu as parlé, que c'était prouvé, ça veut dire qu'il y a eu aussi des études scientifiques, alors.
Oui, tout à fait, Didier. Alors oui, il y a plusieurs études scientifiques très sérieuses qui portent sur les bienfaits des robots thérapeutiques, notamment dans les domaines de la gériatrie, de la santé mentale et de l'autisme, comme je vous le disais au début. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais je vais surtout parler de Paro. C'est l'une des plus connues, sinon la plus connue.
D'accord.
Paro, P-A-R-O, le bébé phoque, créé au Japon en 1983, très utilisé en gériatrie. Il est développé depuis 15 ans par O et il a été validé par des études cliniques très sérieuses, hein, vraiment. Alors, il est grandeur nature. Imaginez un bébé phoque grandeur nature, 2,5 kg, 57 cm. Il a des grands yeux et se comporte comme un animal réel. Alors, il réagit aux caresses et aux mauvais gestes.
Ah oui.
Oui. Et il est très facile, il y a un feedback en fait avec Paro. Il est très facile à utiliser au quotidien pour les soignants, c'est très facile. Hein,
d'accord.
Il y a juste un bouton on-off.
Hein. Oui.
Et donc Paro réagit aux caresses, comme je vous l'ai dit. Et il y a plein de vidéos à voir sur YouTube. Et
si
franchement,
on veut en savoir plus.
Je vous encourage d'aller sur le site officiel de Paro et de regarder toutes les vidéos qui sont faites. C'est vraiment intéressant. Et donc, Paro améliore les fonctions cérébrales. Il y a une étude japonaise qui a montré que 50% des patients atteints de troubles cognitifs ont présenté une amélioration de leur activité cérébrale après des interactions de 20 minutes avec Paro.
Tout de même, 50%. Ah,
c'est-à-dire que des personnes qui sont vraiment là, qui ne s'expriment pas, qui prostrées avec Paro, au bout de 20 minutes, elles vont avoir une bien meilleure activité.
Okay.
Et ça, c'est quand même très intéressant.
Ouais.
Alors, une autre étude rapporte une réduction des symptômes comportementaux qui entraîne une réduction de l'utilisation des médicaments. Ça, c'est quand même important.
Ça, c'est bien aussi, oui.
Et peut-être le plus important, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, hein, c'est que Paro crée du lien entre soignant et patient. Et entre patients et patients. Et ça, c'est dans les services de gériatrie, dans les EHPAD notamment, ça crée du lien entre tout le monde.
D'accord.
Ça, c'est vraiment super. Il améliore donc la sociabilité et même chez les patients atteints de démence avancée.
D'accord.
C'est impressionnant.
Ouais.
Alors aujourd'hui, on compte 6000 paros dans le monde, quand même, utilisés dans 30 pays.
D'accord.
En 2021, on répertoriait 350 établissements en France qui avaient un paro.
Ah oui, tout de même.
Et alors, il coûte 6000 euros environ. Et il est distribué en France. Hein, il a son distributeur. Okay. Vous le trouvez facilement on tape sur Google et on trouve le distributeur de paro. Et les établissements de soins peuvent en louer un à l'essai pour 90 euros par semaine.
D'accord.
Je dis parce que s'il y en a qui nous écoutent, ça peut être une proposition.
À ce prix-là, ça peut se tenter. Sinon, 6000 euros, il faut peut-être trouver un mécène. Quoi, mais
oui, mais justement, par rapport au mécène, il faut savoir que Paro est reconnu comme un dispositif médical déjà en France et il est validé par des mutuelles qui financent des projets d'utilisation de Paro.
D'accord, mais je ne suis pas sûr que des fondations mutuelles ou santé pourraient s'investir ce genre de choses.
Exactement, mais il faut trouver des équipes qui s'y intéressent.
Bien sûr, monter les dossiers et aller de l'avant.
Exactement. Là-dessus. Alors, je n'ai pas trouvé d'infos sur l'existence d'un Paro dans la Sarthe. Mais il y en a un dans un EHPAD à Loche.
Ouais, c'est pas si loin.
C'est pas si loin.
D'accord.
Voilà, pour ceux que ça intéresse.
Ok. Bon, bah écoute. On va pas tous aller à Loche pour découvrir, mais on peut au moins déjà aller sur Internet.
Oui, exactement. Okay. Mais moi, je trouve que ça vaut le coup, franchement.
Oui, allons-y. Alors, et pour ce qui concerne les enfants atteints de troubles autistiques, alors, il y a autre chose ou
Oui, il y a autre chose.
D'accord.
Paro, il est vraiment centré sur les
la
personnes.
Gériatrie.
Oui.
Okay.
Mais ça pourrait être utilisé aussi auprès d'enfants, mais on attend plus de la part d'enfants, en fait. Hein.
D'accord.
Pour les enfants atteints des troubles donc autistiques, il y a des robots qui sont moins connus, Nao, Caspar et Pepper, qui sont des robots humanoïdes.
Ok.
Alors, ils sont aidants pour les enfants pour développer les compétences sociales, l'amélioration du contact visuel. C'est pour ça que ce sont des humanoïdes et des expressions faciales.
D'accord.
Et bien sûr, travailler la communication verbale et non verbale. Mais surtout, la communication verbale. C'est ça qui manque.
Je m'ajoute bien.
Voilà. Mais il y a un effet indésirable.
Ah
les études ont montré que certains enfants, pas tous, parce qu'il y en a avec lesquels ça marche, certains enfants auraient une préférence pour les interactions avec les robots plutôt qu'avec les personnes.
Eh oui, c'est peut-être rassurant. Je sais pas.
Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même.
C'est pas l'idée, j'entends bien, mais j'essaye de comprendre pourquoi.
Oui, mais au moins, il y a une communication qui s'installe.
C'est ça. Mais bon.
Voilà, mais il faut le travailler.
C'est ça.
Alors, les résultats sont quand même moins probants qu'en gériatrie, mais leur efficacité varie vraiment selon les individus. Et c'est quand même très nouveau, tout ça.
Oui.
Et donc, il y a des recherches qui sont en cours pour optimiser leur utilisation dans le cas de TSA.
D'accord.
Alors, il existe existe aussi des robots appelés Companions.
Oui.
Qui sont des peluches réalistes, hein, des chiens ou des chats, qui ont des mouvements simples, qui ont des sons naturels,
ouais,
et qui réagissent au toucher comme de vrais animaux.
D'accord.
Hein, et donc ça, c'est ces petits robots moins sophistiqués que Paro,
oui,
bah, c'est aussi très utile bah, auprès des enfants malades. Mmh. Il y a des programmes particuliers avec des peluches comme ça.
D'accord.
Hein, et en gériatrie. Mais en gériatrie, pas forcément auprès de personnes démentes, seulement comme
l'ensemble
ça. Voilà.
D'accord.
C'est... Okay. Bon, Didier,
oui,
bah... Je pense qu'on va écouter une petite chanson,
oui, oui,
de Nedja.
C'est ça qui va,
hein, qui fait partie
introduire
de la bande originale.
Le prochain sujet, voilà.
Le prochain sujet.
Donc,
on sort pas vraiment des robots. Enfin, si, un peu quand même.
Quand même. C'est
si, on y sort.
Oui,
on sort.
Si, allez, si.
Sortons,
on va,
alors.
On va vers la mythologie et on se met dans le bain tout de suite avec cette chanson.
Bon, c'était Nedja.
Oui.
La chanson Nedja, de
oui,
Nedja 2.
C'est ça.
Parce que
oui,
tu
oui,
vas nous parler de Nedja 2.
Parce qu'effectivement, il y en a plusieurs.
Voilà. Alors, Nedja, c'est donc un héros qui a fait récemment apparition
oui,
sur nos écrans de cinéma
c'est
et
ça,
de télévision.
Tout
c'est
à
ça,
fait.
Didier
bah, de cinéma, là, c'est l'actualité, on va dire. Mais à la télé aussi, enfin, ou les ordinateurs, puisque maintenant, oui, Nedja, c'est un personnage de film d'animation chinois, un long métrage dont le premier volet est sorti en 2019. Un énorme succès en Chine et aussi à l'international. Ce film est même devenu l'un des plus gros cartons au box-office chinois. Il a été acclamé pour son scénario original, ses personnages attachants et puis ses visuels. Ça a rapporté quand même plus de 700 millions de dollars au box-office mondial. Il avait été aussi choisi pour représenter la Chine aux Oscars en 2020 pour la catégorie du meilleur film international, mais il n'a pas été retenu dans la sélection finale.
Or,
alors, ce premier Nedja n'est pas sorti en France, hein, mais on peut le trouver sur YouTube, c'est pour ça qu'on parlait de télé et d'écran. Là, pour le premier, c'est là qu'on va pouvoir le trouver.
D'accord, Didier, alors tu vas nous parler de Nedja 2.
Oui.
Sorti en France,
c'est
celui-là.
C'est ça, oui. Celui-là, oui. Mais avant de sortir en France, en fait, le 23 avril, ce qui n'est pas très vieux, il est sorti, bien sûr, en Chine, le 29 janvier 2025, pour le nouvel an.
Il y a toujours des cadeaux comme ça en
ah,
Chine.
Voilà,
Black Myth Wukong,
oui, oui,
Nedja.
C'est vrai.
Ouais, c'était l'année
alors,
dernière, ça.
Du coup, Nedja 2
oui,
a été réalisé, lui, par Yu Yang, et c'est la suite. Donc direct du Nedja de 2019. Il s'inspire en fait librement du roman mythologique chinois L'Investiture des Dieux. Ce deuxième volet a rencontré un immense succès hein, devant le film d'animation, enfin devenant pardon le film d'animation le plus rentable de tous les temps en langue non anglaise, avec plus de 2,2 milliards de dollars de recettes mondiales. Quand même. On
ouais,
est passé
donc...
de 700 millions en premier oui, à 2,2 milliards.
Oui, c'est impressionnant.
Vice Versa, Le Roi Lion, etc. C'était donc le premier film chinois à intégrer le top 10 des plus grands succès du box-office mondial. Donc là, on peut parler de succès, je crois.
Ah oui, c'est sûr. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu de l'histoire de
oui,
ce héros du livre L'Investiture des Dieux.
Alors, Nedja, c'est un héros mythologique taoïste chinois, très ancien, apparaissant principalement dans L'Investiture des Dieux, un roman donc lui écrit au XVIe siècle, mais ses histoires circulaient déjà avant sous forme de contes et légendes populaires. Nedja a eu une naissance magique. Il n'était pas un enfant ordinaire.
On en sans doute un peu.
Hein, et donc, voilà. Sa mère, Madame Ying, a été enceinte de lui pendant 3 ans et 6 mois. Déjà.
Ouf.
Oui. pardon. Lorsqu'elle a accouché, elle a donné naissance à une boule de chair que son père a voulu détruire, pensant que c'était un démon. Et de cette boule de chair est sorti alors un petit garçon, c'était Neja. Alors, il était déjà pourvu de pouvoirs surnaturels, hein, doté d'un bracelet magique, d'une paire de bottes pour se déplacer très vite et d'une lance, la lance de feu. C'est pas un enfant comme les autres quand même. Hein.
Ça, c'est clair, oui.
Neja était en conflit avec le roi dragon, le roi de la mer de l'Est. En effet, Neja avait tué son fils. On peut comprendre qu'il soit un peu fâché.
En colère, le roi dragon.
Oui, voilà, pour protéger aussi, par contre, les villageois de ses abus. Et alors donc, le roi dragon furieux avait exigé la réparation auprès de l'empereur de Jade, le roi des cieux, pour éviter que ses parents ne soient punis. Eh bien, Neja s'est suicidé pour les protéger et il sera ressuscité grâce à une fleur de lotus magique.
Ah, tout plein de symboliques taoïstes.
Ouais.
Alors, que devient Neja après avoir été ressuscité? Que représente-t-il aujourd'hui, Didier?
Neja va devenir un général céleste. Il aidera les humains à établir la dynastie Zhou contre la tyrannie des Song il y a 3000 ans.
Oui, c'est l'époque de Confucius, la dynastie Zhou.
Ouais. On dit de lui que c'est un dieu investi. Aujourd'hui, Neja est un personnage très positif. Il est considéré comme le protecteur des enfants. Il est aussi le symbole de la rébellion contre l'injustice. C'est donc un personnage à la fois héroïque, tragique et charismatique. Ce qui explique pourquoi il est si populaire dans l'imaginaire chinois et qu'on le retrouve dans les films, les séries, les opéras, les jeux vidéo, enfin, et tant d'autres.
Alors, le film, il raconte cette histoire là, de roi dragon, tout
alors,
ça?
Bon, pas tout à fait. Hein. Dans le film, Neja naît avec une malédiction.
D'accord.
Il est destiné à être rejeté par le monde entier, à devenir un démon. Pourtant, il va réussir à lutter contre son destin pour prouver qu'il peut choisir son propre chemin. Tout ça raconté dans le film avec humour, émotion et de l'action. Alors, ce n'est pas une adaptation fidèle, hein. C'est une version modernisée, plus pop, on va dire, sur le plan technique de l'animation. En fait, c'est impressionnant avec de belles séquences de combats épiques. Et puis, la bande originale va des sonorités traditionnelles chinoises aux musiques contemporaines.
Alors, il paraît qu'il y a un autre film sur Netflix, autre film d'animation.
Oui, c'est New God Neja Reborn. Alors, sorti, lui, sur une plateforme en 2021. Alors, c'est pas la suite directe de Neja, sorti au cinéma. C'est une réinvention de l'histoire de Neja qui renaît dans un monde futuriste où les dieux et les démons, sont représentés par des gangs.
D'accord.
Le style est aussi complètement différent, plus adulte, visuellement influencé par Blade Runner ou Ghost in the Shell. Le film se déroule dans une ville fictive, dans un monde cyberpunk. Le ton est plus sombre que Neja en 2019 et 2025, avec des thèmes comme l'identité, la lutte sociale, la rédemption. Ce film-là est en fait le premier épisode d'une série appelée New God.
Ah, c'est une série, comme un peu les Marvel.
C'est ça, comme nous, parce qu'il est l'heure de se dire au revoir.
Oui, c'est vrai, Didier. Bon, chers auditrices, auditeurs, Asialogie, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 12h, samedi.
Eh bien,
à
9h30.
Et puis, bien sûr, en podcast et toujours sur Radio Alpa.
Parce que nous, on est aussi une série qu'il faut suivre.
Oui,
à
c'est
la
vrai,
prochaine.
On est une série. Au revoir tout le monde, salut. Thank you.